podcast France Culture.
Dans la fabrique de l'information, en temps de guerre ou sur des terrains compliqués, ils sont des hommes et des femmes essentiels, travaillant auprès des envoyés spéciaux et des correspondants à l'étranger, organisant les reportages, traduisant, servant aussi de guide, d'accompagnateur, de chauffeur. Parce qu'ils sont ukrainiens, irakiens ou burkinabés, leur connaissance du terrain leur permet aussi de mettre en garde les équipes de reportage contre d'éventuels dangers. Ils arrangent des situations souvent complexes ou qui semblent inextricables, au mépris des risques qu'ils prennent parfois. On ne les entend pas à la radio, on ne les voit pas à la télévision, et leurs noms sont rarement cités, pas plus dans les journaux. Ceux et celles qu'on appelle les fixeurs et les fixeuses restent les grands anonymes qui nous permettent la lecture d'un monde en perpétuel mouvement. Et la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine nous montre, comme s'il le fallait encore, le rôle capital qu'il joue dans la couverture journalistique d'un tel événement. Mécanique du journalisme, saison 9. Fixeur, les yeux et les oreilles du reporter.
Irpin est pilonné depuis 7 jours maintenant. Toutes les nuits, les Russes attaquent avec toutes sortes d'armes, missiles, mortiers, canons. Les Russes empêchent certains civils de partir. Un peu plus loin, des civils servent de boucliers humains. Messieurs, il faut aller aux abris. C'est très tendu là.
Si je reste ici et que les Russes viennent, j'essaierai d'en tuer un avant de mourir, car ils sont sur nos terres.
Après le début de l'offensive russe en Ukraine, les journalistes du monde entier affluent pour témoigner de la violence des combats qui s'y déroulent et raconter le quotidien d'un peuple tout entier en ordre de marche et qui résiste à l'envahisseur. Des Ukrainiens engagés et volontaires qui, chacun à son niveau, tentent de sauver leur démocratie, désormais en danger. Originaire de la capitale, Igor Zakharenko, 45 ans, n'a désormais qu'une seule obsession, permettre au reste du monde de voir et de savoir ce qui se passe dans son pays depuis le 24 février 2022. 8 ans après la révolution de Maïdan, il reprend du service aux côtés de Michel Scott, grand reporter pour TF1, venu couvrir un conflit, enjeu lui-même d'une guerre de l'information. Épisode 1. Igor Zakharenko ou l'information comme arme de guerre.
Je m'appelle Igor Zakharenko, je suis directeur de la compagnie de tourisme qui s'appelle Ferry de Voyage. J'ai deux fils, quand la guerre a commencé, on est allés ensemble pour prendre les armes, mais après on a parlé avec les militaires. Parce qu'on n'avait pas assez d'armes et on a pris décision ensemble que nous pouvons faire beaucoup plus sur la guerre d'information qu'avec des armes. Donc, on a commencé interprète, fixeur. Vraiment, je veux aider aux journalistes, montrer la vérité, tout ce qui se passe ici en Ukraine.
Il est d'abord très bien informé, ce qui est la première qualité du fixeur.
Michel Scott, grand reporter à TF1.
Il est au courant au jour le jour de ce qui se passe, d'un point de vue général, mais il est au courant aussi des possibilités de tournage, c'est-à-dire des accès aux zones difficiles. Il est, entre guillemets, très bien introduit auprès de la défense civile qui a pris les armes. Donc c'est supplétif de l'armée finalement qui prennent une grande part au combat et à l'effort de guerre. Il est très très bien introduit auprès d'eux, donc il a beaucoup de renseignements au quotidien. Et ça nous permet à la fois de circuler, de passer les barrages plus facilement. C'est un gros avantage, pouvoir accéder.
Добрый день. Зараз знайду паспорт. Це французьке радіо.
Є ж документи?
Да, звісно, є. Зараз.
J'ai travaillé avec Michel Scott et avec Michel Scott, on était à Kharkiv 2 jours et on a filmé tous les dégâts que les Russes ont fait là-bas. Et bien sûr, il faut tout prévoir. Et par exemple, Kharkiv et Kharkiv, c'est la ligne du front. Tu dois comprendre qu'il y a des bombardements, qu'il y a des snipers. S'il y a un bombardement, qu'est-ce que tu fais? Il faut trouver un abri, une cave. Le plus dangereux, c'était les mines. Il faut regarder bien attentivement sous les pieds parce que les Russes ont laissé beaucoup des cadeaux. Voilà, ça c'est vraiment un gros gros problème. Si tu es blessé ou quelqu'un est blessé, tu dois savoir comment sortir de cette zone.
L'explosion vient de se produire. Notre reporter Michel Scott est en haut du bâtiment. Il filme sans discontinuer. Trois étages plus bas, le chaos.
TF1, 1er mars 2022, dans le bâtiment du siège de l'administration de Kharkiv, cible des bombes russes.
Des blessés, comme cet homme sur la droite. Quand il passe devant les fenêtres, les miliciens se baissent pour éviter d'éventuels tirs.
Ok. Mets-toi au gilet. Et son casque.
Des blessés arrivent de l'extérieur, là où l'explosion a eu lieu. Deuxième explosion à l'extérieur.
Attention, ne marchez pas sur les blessés. Avancez doucement. On garde son calme et on remonte. Allez, on se bouge là. On se remet au boulot.
Ça reste une couverture de guerre, donc ça reste dangereux. En tout cas, dans le cas d'Igor, on ne fait rien réellement que lui ne sentirait pas. Je ne pousse pas, je ne force pas la main. Le fixeur, par définition, est un indépendant. C'est quelqu'un qui peut arrêter à tout moment. Ou ils arrêtent, ou ils changent de média d'ailleurs. Parce que les liens d'ailleurs d'amitié qui se tissent souvent ne sont pas forcément les mêmes avec n'importe quel journaliste. Et donc ils peuvent changer de média. Hein.
Et on est allé aussi à Pyapikhatki. Et là-bas, il y avait des chars russes détruits, beaucoup de voitures mitraillées par les Russes. Et la ligne du front, c'était à 1 kilomètre. On prend le risque. Et vous, peut-être vous savez, vous connaissez que les Russes, ils visent spécialement la presse des journalistes. Parce qu'ils ne veulent pas que les journalistes montrent tout ce qui se passe en Ukraine. Et très souvent, quand nous allons à la ligne du front, tous les marquages presse, TV, on cache, parce que vraiment, les Russes visent et tirent spécialement des journalistes, parce qu'il n'y a pas de règles de guerre pour les Russes. Ils font chaque jour des crimes de guerre.
Il s'appelait Mantas Gvedaravicius et Brent Renault, documentariste. Oksana Baoulina, journaliste russe d'investigation. Max Levin, photographe. Pierre Zagzrevski et Ekveni Sakoun, caméraman. Tous sont morts en voulant raconter cette guerre. Oleksandra Kouchninova était fixeuse pour la chaîne américaine Fox News. Elle est tuée le 16 mars quand son équipe est prise sous le feu à Irpin. On ne sait toujours pas quel camp est l'auteur des coups de feu, mais une enquête a été ouverte. Ce conflit en Ukraine est qualifié de particulièrement dangereux pour les journalistes par Reporters sans frontières.
Les journalistes, depuis une vingtaine d'années, peuvent être des cibles de choix. Il n'y a pas beaucoup de choses qui circulent sur une zone de guerre, hein, dans la campagne ou dans les rues d'une ville assiégée ou sur les routes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui circule. Il y a un peu de civils, curieusement, qui circulent. Il y a des militaires, beaucoup, et il y a ces personnages étranges que sont les journalistes. Et quoi de plus facile qu'une voiture de presse ? Vous êtes sûr de ne pas avoir de tir en retour, vous êtes sûr d'un retentissement maximal et de créer un peu plus le chaos.
Des dizaines de corps dans les rues, certains encore sur leur vélo, d'autres encore avec les mains attachées dans le dos. Les images qui nous parviennent de Boutcha sont macabres. Il y a tellement de cadavres que des fosses communes ont été creusées. Boutcha, c'est cette ville au nord-ouest de Kiev. Les Russes se sont désormais retirés de la ville et des territoires autour de Kiev. Thibaut Lefebvre, envoyé spécial en Ukraine pour France Culture. Thibaut, vous avez rencontré Artem, un jeune homme qui a fui Boutcha le 12 mars dernier. Il vous a raconté l'horreur subi par les civils.
Il y a eu des jets de grenades dans des caves et des mines qui étaient installées devant les portails des habitations. Et en sortant de chez eux, des civils ont sauté sur ces mines.
Artem a passé 17 jours sous occupation russe jusqu'au moment où il est parti à pied avec sa sœur, sa mère et une voisine. Ils ont traversé Boutcha qui était déjà jonché de cadavres.
Maintenant, on filme les crimes de guerre. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Boutcha. Mais avant Boutcha, on a filmé la même chose à Stoyanka. On a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de civils tués, torturés. Par exemple, dans un village, les Russes ont violé une vieille femme de 85 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et combien de mal ils vont faire encore. Mais je comprends que je dois montrer ça, je dois aider aux journalistes pour que le monde voit ça et plus en plus les pays peuvent nous aider, surtout avec les armes.
Le fixeur, ce n'est pas qu'un traducteur, c'est vraiment l'interface entre nous, journalistes, et l'environnement humain auquel on est confronté. Et donc, Igor a ce don qui lui permet de décrocher des interviews, c'est-à-dire d'avoir l'accord d'une personne, à persuader aussi quelqu'un qui porte un uniforme de se faire filmer. Et donc, Igor a ce talent pour nous permettre de communiquer, y compris dans un environnement extrêmement dégradé, comme on a pu le découvrir à Boutcha, par exemple, avec une atmosphère très lourde. Il a ce talent pour faire parler les gens.
Le plus difficile maintenant, c'est parler avec les gens. Tu vois, les morts, les soldats russes ont mitraillé, ont tué les gens civils. Mais quand tu commences à parler avec les gens, par exemple, maman qui a perdu sa fille qui s'est promenée dans les rues et les Russes l'ont tuée. Ou par exemple, tu parles avec une femme, elle dit « Mon mari, il a pris le vélo, il voulait trouver de l'eau, il était mitraillé par les Russes. » Voilà, ça c'est vraiment difficile. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça. Même aujourd'hui, on était à Bogdanivka, les Russes étaient là-bas, et une dame, elle a dit que les Russes kidnappaient son mari et son fils, et à partir du 11 mars, elle ne sait pas où ils sont, ni vivants, ni morts. Ils pleurent, et ça, c'est vraiment difficile d'écouter leurs histoires.
D'un point de vue émotionnel et toujours le rapport aux gens qui eux-mêmes ont eu à souffrir ou souffrent encore et souffrent devant nos yeux. Donc ça c'est quelque chose qui est sans doute en charge émotionnelle plus pesant que la simple vue de destruction matérielle, mais même de corps humains. Mais ce sont surtout les vivants, les survivants j'allais dire, dont le regard est le plus difficile à soutenir.
Mais vous pouvez vous imaginer combien de tués, torturés nous avons dans toute l'Ukraine. Et maintenant, il y a des territoires occupés. Et quand les Russes vont reculer, et bien sûr, ils vont reculer, après, on va trouver combien de mal ils ont fait pour nous. Et au début de la guerre, même avant la guerre, on a su que les Russes ont beaucoup de sachets, paquets pour les cadavres, et on pensait que c'était pour les soldats russes. Mais maintenant, on comprend que c'était pour nous. On voulait tuer beaucoup, beaucoup des Ukrainiens.
On a vu avec Igor, la veille ou l'avant-veille de la découverte du massacre de Boutcha, non loin de là, sur l'autoroute 40 qui relie Kiev à la frontière polonaise, les traces de massacres délibérés de civils qui avaient été brûlés dans leur voiture après avoir été tués. Et quand ils n'avaient pas de voiture, ces corps étaient empilés sur le bas-côté de l'autoroute avec des pneus entassés sur eux dans l'idée de les brûler. Ces corps que nous avons vus n'avaient pas eu le temps d'être brûlés.
Je sais ce que nous avons fait pour notre pays et comment nous changeons la situation. Et on est fiers de tout ce que nous avons fait et tout ce que nous allons faire pour approcher de notre victoire.
C'est notamment pendant la guerre en Irak de 2003, la seconde guerre du Golfe, que le grand public apprend l'existence du métier de fixeur. L'un d'eux, Bakhtiar Haddad, va accompagner de très nombreuses équipes françaises de journalistes.
Sur Bagdad, la nuit vient de tomber, et avec elle, les premiers bombardements intensifs.
Épisode 2, guerre en Irak, vie et mort de Bakhtiar Haddad, les premières années.
Les bombes, les missiles explosent les uns après les autres. Des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus des sites pulvérisés. Au moins 5 bombes et missiles ont touché le palais de Saddam Hussein. Aujourd'hui, c'est le jour A, A comme aérien, destiné à infliger choc et stupeur au régime irakien. Sous un déluge de bombes, Bagdad brûle.
Cette guerre d'Irak, déclenchée par le président américain George W. Bush, est ultra-médiatisée. Depuis des mois, des milliers de journalistes sont prêts à rendre compte en direct de l'inéluctable chute du Raïs, dans un climat de tension communautaire exacerbé. Entre sunnites, chiites et kurdes, c'est la discorde, tandis que partout les statues de Saddam Hussein sont déboulonnées. Un chaos que Bakhtiar Haddad, jeune fixeur kurde francophone, ne va avoir de cesse de décrypter pour de nombreux journalistes comme Étienne Huvert d'RTL et Jean-Pierre Canet de Canal+.
Au sud, c'est combien de kilomètres ?
Environ 50 kilomètres, moins 40.
Avant, on passait toujours ici ?
Non, jamais. Ça fait de 1980 que personne n'est passé, ne pouvait pas passer ici à cause des soldats irakiens.
Premier contact, premiers échanges et premiers reportages sur cette route de Mossoul et une véritable amitié qui naît alors, indéfectible, sans faille, comme immuable, pendant 14 ans, jusqu'au 19 juin 2017. Ce jour-là, Bakhtiar Haddad est tué par une mine artisanale alors qu'il accompagne une équipe d'envoyés spéciales. Il avait 41 ans. Mossoul livrait sa dernière bataille avant d'être libéré quelques semaines plus tard.
Donc en mars, le 20 mars 2003, les États-Unis ont attaqué l'Irak le 20 mars 2003. Moi j'y suis allé, nous on y est allé au tout début de l'année 2003.
Jean-Pierre Canet, grand reporter pour Canal+.
C'était donc le nord de l'Irak, le Kurdistan irakien. J'avais eu Bakhtiar en ligne plusieurs fois, qui effectivement parlait déjà pas mal le français. Et on a eu un bon feeling, on avait eu une bonne accroche au téléphone, on avait déjà passé toutes les petites étapes pour la vérification, et puis quoi, quand on est arrivé, il est venu nous chercher, on est arrivé en bus, on a traversé la frontière turque, et Bakhtiar, immédiatement, il a tout pris en charge, il nous a trouvé un hôtel, après on s'est rapatrié sur une maison, enfin, ça a été, on a acheté 2 voitures pour couvrir ce front, c'était dingue. Et Bakhtiar, c'était un peu, non seulement c'était notre fixeur, et moi je me suis dit, putain, on a vraiment eu du bol de l'avoir dégoté, parce que c'était un des seuls francophones, et c'était quelqu'un qui connaissait par cœur la politique. Malgré son jeune âge, il connaissait bien le tissu kurde, il connaissait bien le rapport à l'Irak, il avait déjà une vraie connaissance, mais de terrain, quoi, fine. Il avait l'air d'être un peu, comme ça, un peu voyou, c'était voyou sympa, c'est-à-dire, il n'avait pas peur de tenir tête à un peshmerga. En fait, honnêtement, moi je me suis senti en confiance, bout d'une journée, quoi.
Moi, c'est marrant parce que, en fait, quand on arrive en 2003, il a 27 ans comme moi, on avait un mois d'écart.
Étienne Huvert, envoyé spécial d'RTL.
Et ce voyage de 2003 qui est fondateur, je pense, pour nous dans notre parcours journalistique, c'est 6 semaines de reportage sans s'arrêter, éprouvante, sur une ligne de front, donc c'était quelque chose d'intense. Alors, Bakhtiar, la première rencontre, il arrive et tout de suite, une facilité de venir vers vous et un éclat de rire, quoi, très rapidement. Et c'est vrai que comme il était chaleureux, ça a fait du lien tout de suite. Il avait peur de rien et il fallait le tenir en permanence. Je vais toujours lui dire, Bakhtiar, attention, calme-toi, on est sur une zone sensible, et il était sanguin, donc ça pouvait vite partir aussi en sucette, entre guillemets, en baston, parce que vous êtes dans des circonstances particulière, et il fallait le calmer, le tenir, etc.
Je pense que quand Étienne emploie l'expression tête brûlée, c'est pas du tout qu'il faisait n'importe quoi, c'est juste qu'il avait une telle volonté de nous amener là où il fallait, tout en faisant gaffe, attention, il était très protecteur, hein. Mais il y avait une telle volonté d'avancer, que nous soyons l'équipe qui était au bon endroit, qu'effectivement, parfois, il fallait lui dire attends, reviens là, fais attention.
Au nord de l'Irak, c'est la guerre des Peshmerga. Les combattants kurdes, autant que celle des Américains. il monte par vagues vers une ligne de front fluctuante où les pilonnages de l'artillerie irakienne sont incessants. Avec eux, quelques Américains, également en première ligne. Leur mission, donner aux avions de l'Air Force les coordonnées des positions irakiennes à bombarder. Ils ont aussi apporté des missiles anti-chars sur ce théâtre d'opération proche de Mossoul, où des tanks irakiens seraient entrés en action.
Et je pense que ce petit radar qui lui permettait de sentir la guerre, il l'a développé là, dans ses premières semaines, comme nous d'ailleurs, nous on l'a renforcé aussi. Sentir la guerre, c'était être capable de faire un peu le con et d'être un peu léger dans une situation qui était dangereuse, mais pas tant que ça, parce qu'on maîtrisait la situation. Et à d'un seul coup, ça c'est typique de Bakhtiara, d'un seul coup devenir extrêmement à l'affût du moindre signe montrant que la situation allait dégénérer. Et là, il devenait silencieux, concentré. Même dans ses premières semaines, il n'a fait que renforcer ça après. Et oui, Étienne a raison, il fallait parfois le défendre contre lui-même, il fallait lui dire « attends ». Et il n'était pas suicidaire. Hein. Il y a des gens, des reporters de guerre ou des fixeurs qui peuvent avoir ce côté « suicidaire », entre guillemets, c'est-à-dire une espèce de truc mal réglé vis-à-vis de la mort, etc. C'était ni son cas ni le nôtre. La peur est d'ailleurs quelque chose qui est important dans ces situations-là. Il faut avoir peur un peu. Il faut juste qu'elle ne vous envahisse pas ou qu'elle ne disparaisse pas complètement. C'est toujours un peu compliqué à gérer ça. Bakhtiar... Il fallait parfois effectivement le défendre contre lui-même, parce qu'il pouvait prendre des risques assez dingues. Mais c'était jamais suicidaire, réellement, réellement. C'était pour le bien du reportage.
Né en 1976 à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, Bakhtiar Haddad va passer une partie de son enfance en France, où il accompagne son père, professeur de littérature et opposant au régime, avant de retourner au pays au début des années 80. Quand éclate la guerre en Irak, près de 20 ans plus tard, Bakhtiar Haddad devient le fixeur le plus prisé et le plus courtisé des journalistes francophones.
Sans doute que les jeunes années l'ont imprégné de ce lien avec la France, et parce que le retour en Irak, il a été forcément plus compliqué. Le père de Bakhtiar, c'était un intellectuel, un professeur qui a jamais joué le jeu du clan Barzani à la tête du Kurdistan, dans cette partie-là du Kurdistan. Donc il a toujours développé ce petit côté... contre-pouvoir. Et je pense que son esprit transmis par son père et sa mère d'échapper au contrôle d'un pouvoir, ça l'a beaucoup aidé à devenir ensuite un très bon fixeur et en fait un journaliste dans l'âme.
Et quand vous voyez qu'il a vécu l'embargo, qu'ils ont eu faim, toute la famille, qu'ils ne trouvaient plus rien à manger, et que vous vous dites que c'est un enfant qui au départ a eu le même parcours que vous à un moment scolaire, qu'il a été dans des écoles françaises, il y a ce lien qui se crée et qui fait que c'est un fixeur à part. Je pense que moi, des Bakhtiar Haddad, j'avais connu d'autres très très bons fixeurs, mais avec lequel j'ai créé ce lien d'amitié générationnelle, etc. J'en ai pas connu d'autres. Quoi. C'était quelque chose de. Et je pense que lui, il a vu que on le comprenait, que on le protégeait aussi, et c'est ce qui a fait que lui, en tant que fixeur. Apprenti fixeur même, parce qu'à l'époque, il savait pas ce que c'était que ce métier. Nous aussi, on le découvrait d'une certaine manière. Il a eu confiance dans l'équipe journalistique qui l'entourait. Et c'est comme ça que l'amitié et cette capacité à travailler s'est constituée.
Il faut savoir que Bakhtiar, il a même au pire moment de la vie familiale, il a essayé de passer plusieurs fois en Turquie. Il a été arrêté par les Turcs. Vous êtes kurde et que vous traversez la frontière, vous faites arrêter, mais vous passez un sale moment dans les geôles turcs. Ça lui est arrivé. C'est quelqu'un qui physiquement avait un cuir très épais. Il s'est fait dans la rue, Bakhtiar. En rencontrant, en tchatchant, en parlant, quoi, beaucoup. On le lâchait dans le souk, il connaissait tout le monde, vraiment. Enfin, c'était génial, c'était drôle d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, il avait une blague à sortir.
C'est Dua, c'est lui qui tient le tenancier de ce magasin.
Il avait une capacité, mais alors ça va faire cliché ce que je vais dire, mais franchement c'était le cas chez Bakhtiar. Il avait une capacité quand même à dédramatiser les choses les plus graves qui étaient assez déconcertantes, et tout en ayant une vraie sensibilité pour le môme qu'on croisait, qui avait rien à bouffer, on allait l'aider 5 minutes, on prenait le temps bien sûr. Et Bakhtiar, il avait cette sensibilité là, il avait ce recul là, il avait cette tristesse là, complètement protégée par la joie de vivre qu'il avait. Ça, c'était très agréable aussi, parce que ça dédramatisait les choses. On sortait d'un tournage difficile, sur un front, on avait un peu flippé. Il chantait dans la voiture, quoi. C'était génial. Il nous mettait des tubes tout pourris, J'y chantais à tue-tête dans la voiture, mais c'était des moments fantastiques. On s'est vraiment bien marré, quoi. C'est toujours la marque des grands fixeurs, des grandes fixeuses. Cette espèce de capacité à être au-dessus de l'horreur humaine. Et tout le long de son parcours, jusqu'à sa mort.
Novembre 2004, Bakhtiar Haddad repart sur le terrain en compagnie du reporter Corentin Fleury. Direction la ville de Fallujah, aux mains de la guérilla irakienne opposée aux forces armées des États-Unis. Avec l'armée gouvernementale irakienne, elle s'apprête à attaquer ce bastion sunnite. Bakhtiar le fixeur et son journaliste en sont les premiers témoins.
Ils sont arrivés à Fallujah et ils ont réussi à dialoguer avec les personnes qui tenaient la ville. Ils savaient que les Américains allaient attaquer dans pas longtemps. Et ils avaient besoin d'observateurs indépendants qui puissent dire « voilà ce qui va se passer dans la ville ». C'était les deux seuls qui étaient arrivés, ils les ont gardés avec eux. C'est tout, quoi. Alors, comment on fait dans ces cas-là pour nouer du lien? Ben, on joue au foot quand on peut. Donc, il allait voir les gens de la ville et dès qu'il y avait un ballon, il leur dit « ah, venez, on va jouer au foot ».
Très bon footballeur.
Très bon footballeur. Le problème étant, c'est que les Américains avaient leur premier drone qui tournait autour dans le ciel de Fallujah. On ne savait pas à l'époque ce que c'était que des drones, mais ils en avaient. Donc, ils prenaient des photos, quoi. Et vous aviez des images de Bakhtiar en train de jouer au foot avec les émirs, machin. Et quand ils sont sortis de la ville, le journaliste français, donc, a été longtemps interrogé, mais au bout de 48 heures, ils ont dit, bah, écoutez, vous pouvez sortir. Bakhtiar, ça a été plus compliqué parce qu'il était kurde. Et lui, il a fait à peu près un mois dans les geôles américaines de Fallujah, où il s'est retrouvé avec des djihadistes aussi, il nous a raconté après, qui venaient d'autres pays, tunisiens, etc. Et de par son humanité, il a noué des liens avec tout le monde. Il a discuté avec tous ces gens-là, compris les situations. Et tout ça, c'était extrêmement précieux. Et nous, quand on a appris cette nouvelle, on s'est dit, mais c'est pas possible. Donc, on a créé un site internet Free Bakhtiar à l'époque, qui était assez drôle. Et on a sorti toutes les photos qu'on avait de Bakhtiar. On en avait quelques-unes, bras dessous avec les commandants américains. Ils pouvaient très bien en faire aussi avec Abu, je sais pas quoi, à Fallujah, pour se souvenir de ces moments-là, quoi. Et c'est ce qui a failli lui coûter très cher. Et les Américains ont fini par le laisser sortir et on a été quand même assez soulagés à ce moment-là. Et les images qu'ils ont ramenées de la douleur du siège de Fallujah sont des documents historiques. C'est des documents incroyables.
Il y a encore un tireur là-bas.
2006. Bakhtiar Haddad et Corentin Fleury se retrouvent à Bagdad pour l'émission envoyée spéciale en compagnie d'une unité kurde qui progresse dans la capitale irakienne. Entre exactions kurdes et arbitraires des membres de la Brigade des Loups, milice chiite d'élite, l'équipe est menacée.
Il y a un véhicule américain là-bas. Cessez le feu. C'est des Américains.
Ils ont réussi cette fois à suivre les soldats kurdes qui patrouillaient dans Bagdad.
En pleine guerre civile.
Bagdad 2006, donc on est en pleine guerre civile, etc. Ils sont arrivés dans une situation très compliquée pour les soldats kurdes qui ont commis des exactions quasiment sous leurs yeux. Et Bakhtiar est allé jusqu'au bout. Il s'est mis en danger à ce moment-là. Il a dit, les Kurdes ont commis des crimes et dans le reportage, il faut qu'on le dise, quoi. Il a tout traduit, il a fait tout le travail qu'il fallait de manière très indépendante. Ça l'a mis en danger. Il y avait des risques très élevés pour sa vie, pour sa sécurité au Kurdistan. Et avec Jean-Pierre et quelques autres journalistes, on s'est mobilisés pour réussir à le faire venir en France.
Après avoir fait un reportage à Bagdad, et ensuite, il y a le journaliste que j'ai travaillé avec lui qui m'a demandé « Tu dois être présent en France, parce que c'est bien pour ta vie. » Parce qu'on avait dévoilé quelques secrets à Bagdad, montrer aussi les arrestations par les brigades des loups qui rentrent dans les quartiers sunnites et qui font les arrestations aléatoirement pour dire ces gens-là sont des terroristes contre le gouvernement et tout. Après, on ne connaît pas leur sort, ce qu'ils deviennent.
Et il est resté quasiment un an à la maison des journalistes.
Où
c'est un autre parcours de sa vie en France, où là, il a redécouvert la France.
J'insiste sur cet événement, parce que là, vous avez une vraie preuve de l'indépendance du personnage et de son approche. Un bon fixeur, c'est un journaliste, en fait. Parce que, clairement, les risques qu'il a pris à ce moment-là pour montrer que des exactions pouvaient être commises, y compris par les Kurdes, son peuple, il faut un courage énorme. Mais voilà, là vous avez la preuve que Bakhtiar, c'était quelqu'un qui avait tout compris à la démarche journalistique.
Mais Bakhtiar Haddad, fixeur hors pair qui a marqué toute une génération de journalistes, va être tué le 19 juin 2017, lors de la bataille de Mossoul.
Je vais retourner en Irak, parce que y a des choses à faire. Dès que j'ai ma carte, je vais retourner là-bas. C'est tout à fait logique et normal que je le fasse. Et je vais encore rendre service à des journalistes français.
Épisode 3, guerre en Irak, vie et mort de Bakhtiar Haddad, la dernière mission.
Et ça sera très bien que je rentre là-bas et recommencer à faire mon travail fixeur-traducteur sur place.
Printemps 2017, Bakhtiar Haddad revient là où tout a commencé 14 ans plus tôt, à Mossoul, dans le Kurdistan irakien au nord du pays. L'État islamique qui occupe la ville semble vouloir jeter ses dernières troupes dans une bataille qui l'oppose au Peshmerga kurde et à l'armée irakienne. À 41 ans, Bakhtiar est sans aucun doute le fixeur le plus expérimenté de la région. Et pourtant, cette mission sera la dernière.
Moi, j'étais rédacteur en chef d'Envoyé spécial, né en 2016-2017.
Jean-Pierre Canet.
C'est donc l'une des dernières enquêtes que l'on commande. C'était une enquête sur la traque des djihadistes. D'abord, ce n'est pas nous qui l'avons commandée, on nous l'a proposée. La société de production 5 bis, Émilie Raffoul, Nicolas Jaillard, nous disent on a une journaliste qui est sur place, qui s'appelle Véronique Robert, qui est là depuis plusieurs semaines là-bas, en Irak, et qui a un bon filon sur la traque des djihadistes, c'est de comprendre un peu comment les djihadistes français notamment sont tués, ou arrêtés, ou souvent tués. Et donc on s'est dit que c'était une enquête intéressante, et nous étions en plein siège de Mossoul, c'était les dernières semaines du siège de la vieille ville de Mossoul. Daesh était quelques milliers de combattants regroupés dans la vieille ville, et la coalition tout autour, coalition hétéroclite, hein, faite d'armées occidentales, d'Iraniens, d'Irakiens et de Kurdes. C'était le moment où, dans ce tumulte-là, on pouvait obtenir des informations. C'est une enquête très difficile. Certains journalistes diront qu'elle n'était pas possible. Moi, je pense qu'il est important de maintenir de l'enquête, même en zone de guerre. On devait se prononcer assez rapidement pour savoir si, oui ou non, on pouvait autoriser cette mission. Tous les feux verts étaient allumés. Pourquoi ? Parce qu'on avait Véronique Robert, journaliste qui était présente depuis plusieurs semaines là-bas, qui a l'habitude des conflits, qui avait beaucoup de contacts et beaucoup de réseaux avec notamment les troupes irakiennes. On avait Samuel Forêt, qui est un journaliste indépendant, qui n'était pas dans l'équipe d'Envoyé spécial, mais qui collaborait beaucoup avec Véronique et qui avait pour fixeur Bakhtiar Haddad. Donc moi, quand j'ai commencé à entendre ça, je me suis dit « Ok, si l'équipe c'est ça, que Bakhtiar va aussi servir de fixeur pour l'équipe d'Envoyé spécial, on est en confiance. » Et puis Stéphane Villeneuve, très grand reporter de guerre, qui est chargé donc de tourner ce reportage, on est en confiance. Donc on valide assez vite cette mission. On fait confiance, c'est Nicolas Jaillard qui est aux manettes, c'est un rédacteur en chef expérimenté, et il décide, c'est tout un choix tout à fait judicieux, de faire quelques images du front, quelques heures du front, qui est dur, très dur. Il faut savoir que non seulement il y a des tirs sur le front qui sont extrêmement violents, que évidemment un combattant de Daesh, il va pas vous ménager, hein, il vous en ligne de mire et vous tue. Mais en plus de ça, la vieille ville est bourrée d'IED, de mines artisanales, que Daesh a posées partout. Bakhtiar est évidemment très au courant de tout ça. Toute l'équipe est très au courant de tout ça.
Là, sur la dernière mission, c'est le dernier bastion de l'État islamique dans la vieille ville de Mossoul. Et ça va être le morceau le plus difficile d'une bataille qui avait duré 9 mois. Donc c'est vrai que ça allait être un moment décisif.
Samuel Forêt.
Ça faisait pas mal. On était partis pas mal de fois avec Bakhtiar et on avait envie de terminer cette bataille. Ce qui était exceptionnel à Mossoul, c'est qu'on pouvait faire de la pénétration avec les forces armées en territoire ennemi. On pouvait être vraiment en première ligne. On savait que ça allait être extrêmement dangereux. Donc l'idée, c'était de vraiment pas jouer au cow-boy, mais de suivre pas à pas les forces irakiennes et de rentrer plutôt en deuxième, troisième, quatrième escouade dans les zones qui sont reprises. Il faut imaginer que les soldats créent une sorte de bulle au-devant d'eux, et que dans cette bulle qu'il créait et qu'il sécurisait peu à peu, pouvait évoluer dans une relative sécurité. Donc l'idée, c'était de voir comment les forces irakiennes attaquent, voilà ce que fait la coalition, etc. Donc, sachant que Bakhtiar, lui, allait être plus mobilisé par l'équipe d'envoyé spécial, qui avait vraiment deux équipes. Il y avait moi qui suivais les forces irakiennes et l'équipe d'envoyé spécial qui suivait les forces irakiennes, mais dans le but d'enquêter sur les djihadistes français à Mossoul. Alors, le 19 juin 2017, je pars devant avec Stéphane Villeneuve, donc le journaliste réalisateur du documentaire. Et on est stationné dans une ancienne école qui a deux très solides plafonds de béton armé. Il faut imaginer un endroit complètement en ruine. Il ne reste que les murs et les plafonds, donc le plus solide, mais tout le reste est absolument ravagé. Ça, c'est l'endroit dont vont partir tous les soldats en éclat. Il est 7 heures du matin. Après. Il fait très chaud. Il fait une chaleur d'enfer. C'est le mois de juin en Irak. On commence la journée à 30, 35, 40, 45. Et on s'installe dans cet endroit. Et puis, après quelques temps, Bakhtiar et Véronique Robert nous rejoignent. Et donc, on est avec les soldats dans cette école, dans cet endroit sécurisé, aux abords de la vieille ville. Et on voit les escouades partir petit à petit. On voit d'abord les démineurs partir. C'est les démineurs qui partaient toujours en premier, escortés par des forces spéciales irakiennes. Les démineurs partent. Une escouade, deux escouades, etc. Et ça accroche très fort. Il y a l'État islamique qui nous bombarde. Ils nous bombardent avec tout ce qu'ils ont, avec du mortier, avec du RPG. Ils nous tirent dessus. Nous, on est à l'abri, on est comme dans un bunker. Donc ça tape fort. 4 heures à se faire tirer dessus. Puis peu à peu, l'orage se calme. Il doit être midi, 11h midi à ce moment-là. Et là, on suit une escouade qui rentre dans la vieille ville de Mossoul. Et il faut imaginer tout ça complètement en ruine, avec des voitures renversées dans les maisons. On marche sur des amas de gravats qui sont immenses. Les soldats taillaient leur chemin en faisant appel aux frappes aériennes de la coalition qui tapaient devant eux. Donc c'était un tas de ruines, quoi. C'était vraiment un tas de ruines. Et on avance et il fait une chaleur d'enfer. Et on sent qu'on s'approche peu à peu des limites de cette bulle dont j'ai parlé. Et d'un commun accord, on décide de faire demi-tour parce que ça devient un peu chaud et ça, on sent qu'on sort d'une forme de zone de contrôle. On fait demi-tour. Et en faisant demi-tour, pas à pas, il faut revenir de maison en maison sur un chemin très précis. Et on a une conscience très claire qu'il faut faire attention où on met les pieds. Tout pouvait potentiellement être miné. Les djihadistes de l'État islamique, ils avaient une expérience du minage qui date de l'Afghanistan, qu'ils ont continué en Irak. Ce sont les meilleurs au monde dans le domaine du minage artisanal. Et on rentre. Et sur la toute dernière course, on est à 20 mètres de cette école bunker. Je demande à un soldat le chemin. Il me dit va tout droit parce que il y a du sniper qui peut rentrer par là, donc abrite-toi là. Et voilà. Et de l'autre côté, je vois des soldats à l'abri dans l'école. On court. On s'arrête à l'abri d'un mur, donc à l'abri du feu des snipers. Et c'est là que Bakhtiar me dit attention, Samuel, c'est peut-être miné. Là, je me dis merde. Je regarde autour de moi. Et tout d'un coup, je sens que ça explose. Parce que c'est une explosion, on l'entend, on la ressent, ça brûle, il y a le blast. J'ai l'impression que j'ai la peau de mon visage qui est complètement arrachée, je titube, je reste debout, je ne veux surtout pas tomber au risque, encore une fois, de déclencher une autre mine. Et la fumée se dissipe. Et là, je vois mes trois camarades qui sont à terre. Et là, je me dis que...
Bakhtiar est probablement mort sur le coup. Stéphane Villeneuve est décédé quelques heures plus tard et Véronique Robert quelques jours plus tard. C'est pas une faute de tête brûlée. C'est un risque qui nous pend au nez à tous. Tous, on peut sauter sur une mine. On sait que Bakhtiar a détecté cette mine. Voilà. C'est très injuste, c'est très triste, mais c'est le risque.
Il n'y a pas de coupable.
Étienne Huvert.
Il n'y a pas de responsable, à part la mine et éventuellement la personne qui l'a posée, mais aller la retrouver, et puis à quoi bon, voilà, c'est ce qui est vraiment terrible, et ça ronfle tout le monde derrière, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour passer à côté de ça, et il n'y a pas de réponse, en fait. Et pour
toutes les personnes qui ont connu ces situations-là, les personnes qui sont allées sur le front, tout le monde sait que ça peut nous arriver un jour ou l'autre.
Je ne peux pas revenir en arrière, mais effectivement, Bakhtar est mort dans cette guerre. Mais au moins, j'aurais rencontré, j'ai vécu tellement de choses extrêmement fortes, intenses, puissantes. Au plus haut, j'allais dire, dans cette amitié qu'on peut constituer, dans cette fraternité qu'on peut avoir sur ces terrains difficiles, et aussi dans son plus bas, l'horreur à laquelle on a été confronté, l'accumulation de cadavres, ce rapport à la mort constant, ce danger, etc. C'était quelque chose qui a été extrêmement fort dans ma vie, et je suis obligé de le prendre en entier.
Je pense que pour lui, il y avait une réelle volonté de continuer coûte que coûte à documenter son pays et à faire connaître la situation. Pour lui, son devoir, c'était de la faire connaître en France parce qu'il avait un lien avec la France. Et ça, pour lui, c'était quasiment une mission, notamment ces dernières années. Et c'est vrai que l'année avant ce drame, il est venu ici en France se faire soigner parce que il avait voulu faire un reportage, etc. Et il a été blessé à la main. Et du coup, on lui a dit, viens te faire soigner ici en France, prends le temps. Donc il est venu, il a dormi chez moi pendant, je crois, un mois ou deux à peu près. Et au moment de repartir, je lui ai dit, écoute, il n'y a rien qui te force à repartir. Si tu veux, reste un peu plus longtemps et puis on voit si tu peux rester. Tu as peut-être fait ton temps. Et il m'a fait comprendre que quoi qu'il arrive, il devait repartir parce qu'il avait du travail, c'était important. Puis il avait besoin d'y être. Il aimait ça aussi, hein, voilà. Et je pense qu'il aimait aussi... aller au front, c'était devenu son travail et il voulait continuer à le faire. Et il ne se voyait pas trouver une place tranquille de traducteur ou de je ne sais quel travail ici en France. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout de cette histoire-là. Mossoul allait tomber dans les semaines ou les mois qui suivaient. Et il voulait y être, il voulait en être, il voulait être en première ligne. Et c'était important pour lui. Et on pouvait pas moi j'aurais pas rattrapé à ce moment-là, j'aurais pas eu l'envie de le rattraper, mais ni même la capacité, la possibilité. Et il est parti comme ça, il a pris un bus à la gare à Bagnolet, il est reparti en Allemagne, il est reparti au Kurdistan et il a repris le travail et c'était important pour lui.
En fait, je crois que ce qu'il nous donnait en termes de guide, un travail de fixeur éclairé qui nous emmenait partout, qui nous faisait tout comprendre et qui prévenait les dangers, lui, il se disait « je vais tout faire pour que ce que j'arrive pas forcément moi à exprimer, ça soit transmis dans les mots, dans les images du ou de la reporter avec qui je bosse ». Je crois qu'il y avait, c'est pour ça que quand on travaillait avec Bakhtiar, il y avait un sentiment d'être une seule personne à deux, quoi.
Et quand il a été blessé, justement, l'année d'avant, il a été dans un cadre où il est parti tout seul, en tournage, parce qu'il a voulu, à un moment donné, faire son propre reportage documentaire. Alors, il n'avait pas les mêmes moyens que nous, les mêmes facilités pour aller aux chaînes, mais il voulait le faire. Et il envisageait quelque chose un peu plus sur le long terme, pour expliquer la douleur, la difficulté des Irakiens. Et c'est là où on voit que la démarche journalistique a toujours été quelque chose, et peut-être de plus en plus quelque chose qui l'intéressait, et là, il serait là parmi nous encore aujourd'hui. Je pense que ce documentaire-là, il serait peut-être en train d'aboutir. Et ce serait quelque chose de fort, je pense.
Il n'y a plus tellement des traducteurs, fixeurs, c'est vrai, peut-être il y a des gens qui parlent et tout, mais peut-être ils ne veulent pas un peu dévoiler les secrets parce que c'est risqué, c'est pas bien pour l'image du pays, mais quand même, il faut quelqu'un aussi qui le dise. Je crois que je suis capable à faire ces choses-là parce que c'est ça la vérité d'un pays, de montrer ce qui se passe. Si on cache tout, ça veut dire que c'est une grande dictature, une autorité totalitaire. Moi, je n'aime pas ça. Et j'aime tout le temps aussi de montrer les choses positives et négatives en même temps. Je ne dirai pas ce que je vais faire, mais c'est des sujets qui sont importants et personne ne les a fait, et je vais les faire.
Un même rêve que caresse Parfait Bako, à près de 9000 km au sud-est de Mossoul, en plein Sahel, à Ouagadougou plus exactement, capitale du Burkina Faso.
Voilà, moi c'est Parfait Bako, mécanicien de formation, guide touristique. Quand le tourisme n'allait plus, quand il y a eu l'insécurité dans le pays, quand il n'y avait plus de touristes qui venaient, et c'est comme ça que j'ai commencé à basculer un peu dans le boulot de fixeur.
Épisode 4, Parfait Bako, fixeur au Burkina Faso. Depuis près de 7 ans, le Burkina Faso est en proie à la menace djihadiste. Dans ce qu'on appelle le pays des hommes intègres au Sahel, c'est le lien social, la capacité à vivre ensemble entre chrétiens, musulmans et animistes qui est depuis ébranlé. Selon l'ONG Acted, près de 2000 Burkinabés ont déjà été tués tandis que le pays s'enfonce dans la misère. 24 janvier 2022, les militaires prennent le pouvoir à la suite d'un coup d'État. À leur tête, Paul-Henri Damiba, chef incontesté du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Saura-t-il redonner l'espoir à ses 22 millions d'administrés ? Enjeu d'une géopolitique locale, le Burkina fait l'objet de toutes les attentions. Claude Kibal, grande reporter à Radio France, arpente le pays depuis des années en compagnie de son fixeur fétiche, Parfait Bako, ses yeux, ses oreilles et une amitié sans faille.
Chez un fixeur, je ne cherche pas nécessairement à ce qu'il fasse tout mon travail. Donc moi, ce que je cherchais avant tout, c'était quelqu'un qui me raconte le Burkina à travers ses yeux pour être sûre que je ne sois pas prisonnière de mes a priori que j'ai forcément. Il se trouve que le Burkina, au moment où j'ai commencé à y aller, était un pays qui commençait à basculer à cause des massacres intercommunautaires et du risque djihadiste venu du nord, de la frontière malienne. Et Parfait, c'est quelqu'un qui adore son pays et qui le connaît avec beaucoup de subtilité, beaucoup de nuances et qui a l'habitude d'expliquer son pays aux autres.
Quand le journaliste t'appelle déjà, la manière de te dire ce qu'il veut, tu le sens, soit tu le sens pas. Soit ça passe, soit ça casse. Et avec Claude, je me souviens très bien de notre première rencontre. Parce que déjà, je devrais aller la chercher à l'aéroport. L'aéroport de Ouagadougou est en plein centre-ville. Hein. On a fait quoi, 15 minutes sur la route. Et c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. C'est bizarre, c'est comme ça. J'ai dit des choses et Claude me dit, tu sais, j'étais juste en train de penser à ça. On a parlé de nos familles. Avec elle, vraiment, ça a été exceptionnel. Pouvoir se confier à quelqu'un, pouvoir raconter sa vie à quelqu'un, c'est cette confiance. Pour moi, ça fait partie du travail. Plus on parle de ce qu'on aime ou bien de notre famille et tout ça, plus cette confiance règne, plus on va faire du bon boulot. Parce que plus on se sent à l'aise avec la personne on est, plus on se donne à fond pour satisfaire cette personne. Mes méthodes de travail changent selon les zones où on va. Quand on est dans une zone dangereuse, je deviens plus vigilant au niveau de... Je regarde un peu partout, je fais attention. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit? Parce que moi, j'ai la chance de comprendre plusieurs langues dans le pays. Et quand j'arrive dans des régions, je fais beaucoup attention pour qu'on ne sache pas que je comprends la langue. Comme ça, s'il y a quelque chose qui se dit dans la langue locale, moi, je peux comprendre. Et que si j'entends des choses qui sont douteuses, je préfère qu'on quitte quoi. Parce que les personnes qui viennent ici connaissent rien et ils te confient en gros leur vie. Parce que c'est toi qui dois les amener dans des zones. Souvent c'est difficile. C'est difficile parce que toi tu vois les barrières. Il y a un proverbe amoureux qui dit que l'enfant voit l'aubergine mais il ne voit pas le piège. Ça veut dire l'enfant voit l'aubergine qui va le cueillir pour manger mais il ne voit pas le piège qui est avant l'aubergine. Pour moi c'est ça en fait. Le journaliste, il arrive, il a déjà sa vision de la chose qu'il doit faire. Et toi qui es là, tu vois que non, en allant directement comme ça, on peut carrément nous fermer la porte directement. Et toi, tu lui dis non, tu ne dois pas faire comme ça. Et même souvent, même le guider par rapport à ses questionnaires, parce que souvent, dans nos pays, ce n'est pas toutes les questions qu'on peut poser à tout le monde. Donc souvent, tu es obligé de dire non, attention à cette question, tu ne peux pas la poser parce qu'ici, c'est sensible. J'ai eu, par exemple... pour aller voir les milices d'autodéfense. Et ils me disent oui, pour que le journaliste puisse venir suivre notre rencontre. Ils me demandent que le journaliste paye pour ça. Je ne peux pas accepter. Mais en même temps, je ne vais pas leur dire non, on ne peut pas payer. Parce qu'en le disant comme ça, c'est comme si je bloque en fait. Donc je suis obligé de passer par des manèges pour leur dire oui, c'est bien, c'est vrai, ce que vous faites c'est bien et tout. Mais voilà, le plus important pour nous c'est montrer ce que vous faites. On a peur de vous. Plus on vous connaît, plus on a moins peur de vous. Et donc, voilà, tout le temps tu es obligé de trouver des stratèges comme ça un peu pour débloquer les gens, pour les mettre à l'aise, pour les faire avoir confiance quoi.
un village quelque part au nord de Ouagadougou. Il faut s'imaginer un manguier aux branches immenses et sous cet arbre, une quarantaine d'hommes au visage fermé. Certains ont de vieilles pétoires, des gourdins posés sur les genoux. Ces hommes, ce sont des Kogléogo, littéralement les gardiens de la brousse, la plus puissante des milices du Burkina Faso. Ici, ce sont eux les maîtres. Ils tiennent à le montrer. Ils sont assis en cercle. On nous fait entrer au milieu. Nos identités vérifiées, scrutées. Il faut rester silencieux.
Ce moment-là, en fait, parmi les milices Kogléogo, les milices Mossi du Burkina, des hommes qui se retrouvaient à faire la police hors de Ouagadougou, quoi. C'était assez impressionnant, ils avaient décidé de nous montrer un petit peu leur pouvoir et donc parfaitement on s'est retrouvés dans ce cercle d'une quarantaine d'hommes qui disaient plus un mot, on n'avait pas le droit de parler avant que le chef de la milice nous en ait donné l'autorisation et il fallait que ce soit parfait, qu'il parle avant moi, etc. Enfin bref, c'était impressionnant, il y avait des hommes qui étaient enchaînés à un arbre non loin, des hommes qui avaient été faits prisonniers par ces milices. C'était un état dans l'état, c'était assez effrayant. Et pour moi, c'était une expérience, bien sûr, d'aller chez les miliciens Kogléogo, mais ça l'était aussi pour parfait. Par le fait que je sois là et que ce soit moi qui pose les questions, c'est parfois des questions qu'il aimerait poser lui, mais qu'il ne peut pas poser en tant que Burkinabé, parce que peut-être que venant de telle ethnie, il ne peut pas aller poser les mêmes questions que moi, en tant qu'étrangère, je peux poser. Et donc, je pense aussi que Parfait, dans son travail de fixeur, trouve là aussi peut-être le biais dont il a besoin pour quelque chose qui lui importe, c'est-à-dire la compréhension de son pays. C'est là où j'ai le sentiment que parfois, c'est pas à sens unique, c'est pas simplement moi qui viens prendre.
Un pays au bord d'une guerre interconfessionnelle. Ce n'est pas exactement l'image que Parfait souhaite montrer au monde. Sans doute un peu caricaturale. Alors en bon fixeur, c'est à une toute autre réalité qu'il va confronter sa journaliste, celle de ce pays où cohabitent ces hommes intègres, celle du vivre ensemble.
En ce moment, c'était le problème de l'insécurité qui commençait à arriver, les attaques qui commençaient à arriver. Et nous, on se disait, c'est pas possible, ça peut pas arriver chez nous parce qu'il n'y a pas de différence de religion ici. On partage tout ensemble. Et lors de voilà, je sais pas, c'est dans la voiture avec Claude, j'ai dit par exemple dans nos quartiers, tu as les musulmans, tu as les chrétiens, tu as les animistes et tout le monde vit dans la même rue. Et quand c'est une fête de Noël, si tu es chrétien, même si tu vas faire du porc, tu vas faire du poulet à côté pour tes amis musulmans, tes voisins musulmans et vice versa quand c'est une fête musulmane, c'est pareil. Parce que dans la même famille, tu peux trouver et des musulmans et des chrétiens et des animistes. Donc, c'est ça, tout ça qui fait que nous, on pensait que le djihadisme ne pouvait pas se développer au Burkina. Et malheureusement, c'est arrivé. Et c'est là, il me dit, est-ce que tu penses que le jour de la fête, on peut aller visiter une famille? J'ai dit, oui, tu vas voir comment les gens partagent et tu vas le vivre. Et c'est comme ça qu'on est parti dans le quartier. On a trouvé la grande famille qui ont tué plusieurs moutons pour faire le repas. Et on était tous assis sous un arbre. Et le repas a été mis dans une grande cuvette et on a tous mangé dans le même plat. Pendant ce repas-là que je disais à Claude, tu vois, en Afrique, on dit les frères doivent manger ensemble dans le même plat. Le fait de manger dans le même plat prouve que vous ne pouvez pas vous trahir.
Là, on n'était pas attendus, c'était pas j'arrive avec une journaliste. Les hommes étaient dans la rue, assis sur des petites tables en plastique, des petites rues de terre battue avec des petites maisons de part et d'autre. Parfait, vraiment voulu me montrer par l'exemple comment au quotidien, au Burkina, effectivement, toutes les religions étaient mélangées et vivaient harmonieusement. Et ce jour-là, la population, d'ailleurs, était très marquée parce que c'était un Aïd différent, puisque depuis un an, le Burkina commençait à basculer dans des violences intercommunautaires que le pays ne connaissait pas. Et les gens étaient eux-mêmes en état de sidération. Et à Ouagadougou, il y avait ce sentiment profond d'être blessé dans leur identité, en fait. Et je crois que c'est ça que Parfait m'a montré, en fait, en m'amenant juste dans son quartier.
C'est pas comme si vraiment on travaillait, quoi. C'est comme si on était à une fête et elle était une invitée et puis elle était là. Ça fait autre chose, quoi. C'est différent, oui. Et après ce repas, on m'a dit non, je préfère te laisser, tu vas aller continuer la fête avec tes voisins et tout. Et moi, je vais rentrer, essayer de faire mon montage et tout ça.
Sur la place de la Nation, les dos se prosternent sous un soleil de plomb. Ce jour-là, à Ouagadougou, on fête la fin du Ramadan. Sur l'estrade, le Premier ministre, l'archevêque, l'imam. Le message est clair, les djihadistes ne détruiront pas le Burkina Faso et son exceptionnel brassage multiculturel.
Bonne fête.
Bonne fête également.
Merci beaucoup.
C'est en périphérie de la ville que l'on part célébrer la fin du mois de jeûne. Autour de la table en plastique vert, des ouvriers, des chauffeurs, des petits fonctionnaires, les mains droites plongent dans le plat de mouton grillé, rythmé par les verres de thé brûlant.
Et dans un quartier comme ça, tu peux voir que tout le monde est mélangé. Cette coupe être chrétienne, celle-là musulmane, celle-là protestante, celle-là catholique, celle-là animiste. Donc comme c'est jour de fête musulman, les musulmans ils préparent et ils servent les chrétiens pour qu'ils partagent la fête avec eux.
Parfait et chrétien, il était guide, mais avec l'accélération des attaques depuis quelques mois, il n'y a plus de touristes. Les expatriés se terrent, évitent les restaurants, les lieux publics. De nombreuses entreprises ont fait partir leurs employés non essentiels. Et ici, alors que la ville semble si calme, on s'énerve contre les djihadistes qui, après le Mali, veulent briser le Burkina Faso.
J'ai entendu le sujet et j'étais très content de l'avoir fait faire ça. Je me suis dit, ah, tu as eu raison de faire confiance à Claude. Pour moi, c'est quelque chose que je vivais tous les jours. Et c'est elle, en faisant le reportage, que j'ai compris que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Et c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre à tout le monde entier que le vivre ensemble, il faut le commencer depuis la maison, le quartier, avant que ça passe dans tout le monde entier, quoi. En faisant ça, je fais découvrir mon pays, l'histoire de mon pays et les problèmes de mon pays au monde entier. Et pour moi, ça, c'est important.
Quand il ne travaille pas comme fixeur, Parfait Bako reprend sa casquette de mécanicien dans son garage. Pas le temps de chômer. Avec 15 personnes à nourrir, ses 4 enfants, ses neveux et ses nièces qui vivent avec lui et dont il paye la scolarité, les journées de travail sont longues. Car pour l'instant, impossible pour lui de redevenir le guide touristique qu'il a toujours été.
Alors, pour l'avenir, c'est vraiment actuellement difficile. On a nos enfants qui sont en train de grandir pour venir. On a besoin qu'ils grandissent dans un Burkina sain. Et pour ça, c'est nous en tant que parents, c'est nous, on doit préparer ce terrain-là pour eux. Et pour le métier de fixeur que je fais, souvent, tu es obligé de refuser certains boulots à cause de la famille parce que tu te dis, et merde, si quelque chose m'arrivait, qu'est-ce qu'ils font, quoi. J'ai l'espoir que demain, je serai toujours fixeur pour raconter des belles histoires de mon pays, que d'amener des journalistes pour aller voir des déplacés internes ou des femmes qu'on a attaquées. Sincèrement, c'est ce que je pense pour l'avenir, quoi. Ce que je souhaite pour l'avenir.
Mécanique du journalisme, fixeur, les yeux et les oreilles du reporter, production Alain Lefkovitch, réalisation Vincent Beck.